Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calade. Nous sommes le mardi 9 mai 2023, il fait gris dans le Beaujolais. On attend des averses cet après-midi avec des températures autour de 18 degrés. Et a priori, le temps s'annonce pluvieux tout au long de la semaine. Dans notre émission du jour, on va retrouver une chronique du coach. En fin d'émission, on a rendez-vous avec notre libraire Bertrand Lamure. Et avant ça, on accueille bien sûr notre invité du jour pour nous parler aujourd'hui de l'association Grains de Poésie et de l'événement qu'ils organisent ce samedi 13 mai à Villefranche, un festival poétique impliquant 7 lycées, 5 lycées caladois, 2 lycées de Pelleville, si je ne dis pas de bêtises, 6 lycées, pardon, dans lequel des élèves se livreront à des joutes oratoires poétiques. Les élèves ont eu 6 mois pour se préparer et c'est ce week-end qu'aura lieu le grand final de ce projet autour donc de la poésie, bien sûr de l'oralité, de parler sur scène. Pour nous en parler et nous expliquer plus en détail comment va se dérouler ce festival intitulé En Lice, on reçoit un membre de l'association Grains de Poésie, c'est Patrice Alloin qui est avec nous en studio. Mais avant ça, de la musique, il me fallait trouver des poètes aujourd'hui. Je vous propose donc d'écouter Ben Mazuet, Gaël Faye et Grand Corps Malade avec Sous mes paupières, extrait de leur album Éphémère. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14. Merci d'être avec nous.
C'est vrai, j'ai grandi, mais ma mère est partie et mon père a vendu, alors sans maison, pourquoi y retourner? La Provence, pour moi, c'est une page de tournée. Et ça va, je veux dire, je me lamente pas, le monde, c'est plein d'endroits. Et c'est sûrement très bien, j'ai construit mes attaches maintenant. Et elles m'attachent très bien. Sauf que ce matin, j'y suis là, dans le pays de mon enfance. Pour quelques jours, sans l'avoir vraiment choisi, en Provence. J'ai marché sous le soleil parfait, sur les sentiers pentus des Alpilles. J'ai senti l'odeur des genêts, sous la lumière blanche et timide. Et ces odeurs capables de souvenirs si rapides, si parfaits, si limpides, si concrets. Que ce matin, sur ce chemin, j'avais 7 ans. J'étais amoureux de Candice, je vivais pour les billes, pour le foot et pour le tennis. J'avais déjà des grands tourments, à y repenser ça paraît ridicule. Ou alors c'est de dire que ceux d'aujourd'hui sont bien plus grands qu'est absurde. Quel que soit le moment, quelle que soit la manière, la Provence, dès que je la retrouve, mets des images sous mes paupières.
Je vois mon maillot de basket bleu, numéro 6. Dans le dos écrit Saint-Denis, pas de hasard. C'est ma ville, je vois ses vertus et ses vices, et les sourires malins de mes petits banlieusards. Y'a des souvenirs partout et plus qu'il n'en faut, de moments généreux, bonheurs iconiques, mais aussi un passé qui constate ses défauts, conséquence fatale d'un esprit mélancolique. Je vois des cahiers remplis par des tonnes d'envie, des paysages connus et des jardins secrets, des rires au ralenti comme dans un road movie, y'a des silences pesants et des paroles sacrées. Je vois les visages qui partagent ma maison, mon évidence, mon sang, mes lumières. Quand je ferme les yeux et que je regarde le fond, je vois des images sous mes paupières.
D'abord, le soleil dans le ciel, la douceur avant que la violence rentre en scène aussi. Mes rêves d'enfant, l'ado qui se jure que demain sera grand, des sourires, des souvenirs de l'avenir, les photos que j'invente, les absents, présents, tous ces gens dans la foule, les liesses populaires, la ferveur des concerts, les pull-up mains en l'air. Je revois ton visage et nous sur un banc au jardin des plantes. J'écorne les pages de ces jours où j'embrasse la bouche de tes 20 ans. Et nos enfants miracles, bout du chemin, le virage. Y a des mirages de lumière. Quand je ferme les yeux, j'ai des images sous mes paupières.
Grand Cœur Malade, Ben Mazué et Gaël Fay avec un morceau intitulé Sous mes paupières.
Ensemble sur Calade.
Et aujourd'hui avec nous en studio, on reçoit Patrice Alloin. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venu nous voir. On va parler de l'association Grain de Poésie et puis d'un événement qui est organisé ce samedi 13 mai à Villefranche. Grain de Poésie déjà, qu'est-ce que c'est ?
Grain de Poésie, c'est une association qui a vu le jour en 2019 et qui en fait s'est inspirée de ce qui s'était passé dans le Mâconnais, qui eux-mêmes s'étaient inspirés. Il y avait une des personnes donc responsables de cette association qui était lors d'un voyage en Espagne, à Tolède plus précisément, s'est trouvée devant un défilé, une parade de justement d'étudiants qui rejoignaient la place de la cathédrale et où ils devaient justement se livrer à des joutes oratoires. Et il a trouvé ça très sympa et c'est l'idée est revenue et c'est vrai qu'à Villefranche, en Calade, on s'est aussi inspiré puisqu'il y avait des relations communes entre Mâcon et Villefranche. Mmh. C'est inspiré de cette création-là pour pouvoir de nouveau nous créer Grain de Poésie.
Et donc, ouais, l'objectif c'était de cette association, c'est justement de créer cet événement et ce festival autour de la poésie.
Oui, tout à fait. C'est une association qui est complètement philanthrope. Hein. D'ailleurs, à ce titre-là, on est toujours en train d'essayer de chercher des mécènes, des donateurs pour pouvoir, parce que c'est notre seule façon d'exister.
Ouais.
Et pour pouvoir aussi rentrer dans nos frais, qui sont l'organisation du spectacle qui va avoir lieu le 13, qui soit aussi, on a un comédien professionnel qui est là, qui est en fait salarié de cette association Grain de Poésie. Et donc, on a besoin de tout ça. Et l'objectif, un petit peu, c'est de créer justement ces joutes oratoires qui sont très intéressantes pour les lycées, pour les élèves. Ils découvrent eux-mêmes, les lycéens, tout ce qu'ils peuvent apporter, tout ce qu'ils peuvent découvrir en eux-mêmes déjà, leurs capacités et autres. Voilà, il y a tout un tas de choses qui se mettent et qui sont tout à fait sympas.
Les membres de cette association, ce qui vous lie, c'est peut-être la poésie et le... L'intérêt pour.
Alors,
pour
il y avait différentes compétences qui ont été notées lors du choix un petit peu des gens qui constituent cette association. Certains sortaient de l'administratif, d'autres de l'éducation, d'autres de la culture. Donc, ça faisait un mélange qui était assez intéressant pour faire quelque chose d'efficace.
Très bien. Bon. Alors, on va parler de ce festival. Ça s'appelle En Lice.
Oui, En Lice. Alors, c'est vrai que notre comédien professionnel, donc, qui se nomme Thomas Volatier.
Ouais.
Est très très inspiré par tous ces jeux justement de joutes oratoires et il remonte souvent, il le cite à l'époque d'Anne de Beaujeu, donc il y a un peu plus de 500 ans, à l'époque où les joutes oratoires étaient vraiment une distraction tout à fait reconnue lors des banquets, des soirées et autres.
Mmh.
Et le principe était, donc il y en a un qui commençait justement, qui partait comme ça sur de la poésie ou autre et après il y avait quelqu'un devait reprendre automatiquement le flambeau et continuer jusqu'au moment, celui qui perdait, c'était le dernier qui n'avait plus,
plus
d'idée, qui n'était plus en capacité de continuer. Oui, c'est un peu ça, ouais.
D'accord. Et en quoi est-ce que ça va justement ressembler à ça ou c'est une adaptation c'est pas exactement le même.
Alors c'est une adaptation mais bon, sur la construction on peut considérer qu'il y a quelque chose de cet ordre-là parce qu'il y a un thème précis. Et c'est vrai que les étudiants doivent être les lycéens pardon doivent être conformés conformer à
cette thématique. C'est quoi cette année du coup ?
Alors cette année, c'est le cri de Gaïa.
D'accord.
Donc évidemment, on a
la terre, la nature.
La terre, tout à fait. On est vraiment. C'est un sujet d'actualité.
Ouais. Et puis le cri, quoi.
Le cri. C'est vrai qu'on est actuellement. On a une terre qui souffre, qui crie, effectivement. C'est de pouvoir l'entendre.
Mm.
Et donc, ça va être le thème. Et vont être transcrits au travers de ce thème toutes les poésies, tous les défis poétiques qui vont être justement. Sur scène.
Ok. Donc, j'ai lu que les lycéens avaient 6 mois pour se préparer.
Oui, globalement, ils ont démarré à peu près en décembre. Alors, ça se passe comment ? On a donc notre comédien qui va passer dans chacun des établissements, des 6 établissements.
Ouais.
Donc, sur Villefranche, on a Notre-Dame-de-Mongrée, on a Notre-Dame, on a le lycée Louis Armand et Claude Bernard.
Ok.
Et sur Belleville, on a le lycée Bel Air et le lycée Aiguerande.
D'accord.
Et voilà, donc il va dans chacune, donc il y a tout un planning qui est établi à l'avance avec les référents qui sont souvent un prof de français, voire même une deuxième personne. Et ces référents, avec ces référents, donc ils fixent des rendez-vous, des heures de cours en quelque sorte qui sont prises sur le cours de français ou autre. Ça, c'est à leur discrétion. Et ils permettent justement de par ce comédien, par Thomas Volatier, de pouvoir poser un petit peu ce que peut être la poésie, la façon de la déclamer, la façon de l'exprimer, parce que aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui m'a un peu frappé. C'est vrai que dans cette jeunesse-là, on est beaucoup rap, on est beaucoup slam, et la on a poésie, un débit de parole qui est impressionnant, qui correspond pas tout à fait à la façon dont on voudrait ou on pourrait entendre la poésie. Ouais. Mais c'est intéressant d'avoir parfois un mélange des deux. Donc,
c'est-à-dire qu'il faut leur demander de ralentir au lycée.
Souvent, c'est la première chose, ouais, c'est de leur demander de ralentir. Mais c'est sympa, c'est vrai qu'ils vivent avec leur façon de s'exprimer. Mais après, voilà, il faut que cette façon de s'exprimer puisse être entendu par un peu tout le monde, quoi.
Ouais. Et c'est des classes qui ont été choisies ou c'est des groupes qui ont été formés à partir de volontaires?
Chaque établissement définit par lui-même ceux qui vont intervenir dans ces joutes oratoires. Donc il y a quand même beaucoup d'élèves de seconde, un peu de première et très peu de terminale, ouais, parce qu'ils
ont
quand même des échéances là. Voilà.
Très bien. Et justement, comment est-ce qu'on fait aborder à des jeunes la poésie? Comment est-ce qu'on les implique là-dedans? Vous qui avez assisté à quelques séances, comment ça...
Oui, j'ai eu la chance de faire tous les lycées, de pouvoir justement découvrir chacun d'eux avec leurs différences, et c'est assez intéressant quand même, suivant la filière, suivant le lieu du lycée. Il y a vraiment des différences, mais qui sont assez enrichissantes, parce que chacun vraiment a ses atouts à faire valoir, et c'est ce qu'on aura l'occasion justement de voir le samedi après-midi du 13 mai.
Ouais. Et donc ce jour-là, ils auront... Ils vont monter sur scène tour à tour. Chaque établissement va envoyer une équipe de lycéens sur scène.
Tout à fait. Donc là, le choix de ceux qui vont intervenir est défini par chaque lycée, par chaque classe, par chaque référent de français. Alors, dans certains lycées, c'est une classe. Dans d'autres lycées, c'est différentes classes. Mais il ne peut pas y avoir 50 personnes non plus sur scène. Donc, de toute façon, on est limité à 12 récitants.
Ouais.
Et il peut y avoir d'autres élèves autour, mais qui n'ont pas un micro casqué, par exemple, pour pouvoir s'exprimer. Donc, ça, c'est un choix à eux de choisir ceux qui sont le plus à l'aise, ceux qui ont le plus à faire valoir, ceux qui ont le plus à exprimer ce qu'ils ont envie de dire. Donc, ça, ils ont vraiment carte blanche pour presque tout. Donc, ils peuvent rajouter, comme je vous le disais, de la musique, ils peuvent rajouter de la mise en scène. C'est vraiment, ils ont vraiment carte blanche, et c'est ça qui est chouette. Ils sont vraiment dans la création, mais à tous les niveaux.
Et je crois qu'il y a une seule consigne qui est de...
Il y a une consigne impérative, c'est que chaque groupe doit composer au moins, écrire au moins un poème, une poésie, entre eux. Ou ça peut être un élève seul ou un groupe d'élèves, ça les regarde.
Mais il faut une création originale.
Voilà, il faut impérativement au moins une création originale. Alors, suivant les lycées, effectivement, il y en a qui en créent d'ailleurs plusieurs, c'est assez sympa. D'autres qui vont s'inspirer beaucoup de la littérature, de la poésie existante depuis fort longtemps. Mais c'est vraiment, ils ont vraiment cette carte blanche pour créer, et voilà, ils peuvent vraiment exprimer toute leur créativité à ce titre-là.
Très bien. Et il y a un côté concours avec des prix, alors...
Oui, il y a des prix, effectivement, il y a sept prix en tout qui seront remis. Hein. Donc dans les prix, on a le prix de la créativité, le prix de l'écriture, le prix de l'expression, le prix de l'interprétation théâtrale, le prix de la mise en scène, le prix du jury, et un prix qui englobe tous les autres, qui est donc le prix couronnant le meilleur établissement, c'est le grand prix du défi du Enlis. Enlis étant en fait le nom de
le nom du festival. Voilà. Et donc on peut imaginer que tous les lycéens pourront gagner un prix, s'il y a six prix...
Oui, ben c'est un peu l'intérêt aussi en fonction de leur capacité, de ce qu'ils ont pu rendre sur scène. Donc on a un jury composé de 6 personnes, on a 3 hommes, 3 femmes, qui vont eux délibérer. Donc ce sont des gens qui sont quand même tous intéressés ou par la littérature, ou par le théâtre, ou par la mise en scène. Ils ont vraiment un lien avec cette culture-là, et qui vont pouvoir s'exprimer en leur libre conscience par rapport à ce qu'ils auront pu ressentir de ces différentes joutes. Alors, effectivement, il y a toujours une notion de compétition, mais au sens noble du terme. C'est pas quelque chose qu'on doit gagner à tout prix en employant tous les artifices possibles. Mais oui, c'est normal. Et puis, je crois que c'est quelque chose qui motive un petit peu d'essayer d'arriver devant, d'avoir le Grand Prix, quoi. C'est sympa.
Et puis, c'est la poésie qui est au cœur de l'événement. C'est artistique, c'est culturel.
Complètement.
C'est pas...
Complètement.
Une compétition...
Oui, c'est cool, c'est pas... voilà, on n'est pas à couteau tiré, non, c'est, ça se passe bien, même si on sent qu'il y a une certaine appréhension chez les lycéens, certains flippent un petit peu, ils sont un peu tendus,
Monter sur scène et parler devant du public. Et
tout à fait.
On sait que c'est pas facile...
Non, c'est pas donné naturellement à des tas de gens, mais justement, là, ils s'entraînent, et bon, ils auront une répétition vendredi après-midi, quand même, ils vont passer sur scène, ne serait-ce que pour prendre un petit peu les marques de la salle, de la scène et du public qui sera devant, en espérant que justement ils soient nombreux pour découvrir ce spectacle, parce que c'est vraiment un spectacle.
Ouais.
Alors cette année, on a la chance de pouvoir le faire vraiment en direct, mais il y a 2 ans, parce que c'est une biennale en fait, on est sorti juste après le Covid et c'était très compliqué, et les élèves ont eu énormément de mérite à réussir à faire quelque chose, parce qu'ils avaient pas beaucoup de moyens, ils se sont filmés de manière très rudimentaire pour qu'on puisse justement au niveau du jury pouvoir analyser un petit peu ça et décerner les prix. Alors les prix ont quand même été rendus j'allais dire en place publique presque, puisque c'était dans une salle de la mairie, la salle du conseil, et là il y a eu quelque chose quand même de
Pour marquer le coup.
Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'était important quand même de pouvoir figer un petit peu ça.
Là, samedi, moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait des beaux moyens quand même pour le spectacle. Vous avez parlé de micro casqué, etc.
Oui, tout à fait, parce que c'est pas facile dans une grande salle. Les gens, enfin, les jeunes, même les adultes d'ailleurs, parlent plus ou moins fort, et c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable pour eux de pouvoir être justement sonorisés sans avoir à forcer leur voix pour faire quelque chose qui ne serait peut-être pas très juste. Donc effectivement, on a un ingénieur du son et de lumière qui va gérer tout ça. Donc je pense qu'ils vont être choyés sur scène, ils vont découvrir quelque chose. Peut-être certains trouver une voie à suivre par la suite, pourquoi pas. Mais vraiment un moment de plaisir à partager, ça c'est chouette.
Quand vous nous avez expliqué l'origine de la création de l'association Grain de Poésie, vous nous avez parlé de cette personne qui avait vu en Espagne un défilé dans les rues et ensuite les joutes oratoires, on va dire.
Oui.
Vous refaites à Villefranche le défilé.
Il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, dans la mesure où effectivement il y aura une parade qui va démarrer Place des Arts, en plein cœur de Villefranche, la bien nommée, pour aller, pour se rendre jusqu'à la salle de l'atelier en passant justement par la rue Anne de Beaujeu, aussi très 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 lié un petit peu à tout ça. Et puis pour se rejoindre donc dans la salle. Donc là c'est pareil, ils auront aussi carte blanche pour se déguiser, pour chanter, pour faire du bruit, pour tout ce qu'ils veulent, pour être en quelque sorte présenter un petit peu au public qui sera ou dans la rue ou déjà dans la salle, quoi.
Très bien.
Donc c'est une belle entrée en matière.
Rendez-vous aux alentours de 14h Place des Arts ce samedi.
C'est ça, pour une parade qui va démarrer à peu près à 14h15, et puis rendez-vous après précisément 15h avec le début justement
à la salle de l'atelier.
À la salle de l'atelier, avec un tirage au sort qui sera fait donc avant la parade en interne avec donc les membres du jury pour savoir quel sera l'ordre de passage de chaque lycée, parce que rien n'est établi à l'avance.
Ils ne le savent pas encore.
Et non, on ne peut pas. Ce serait...
Et oui, et les premiers à monter sur scène, c'est peut-être le plus difficile. Et puis
ou pas d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas de référence. Donc du coup, ils peuvent se livrer en fonction de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont mis en place.
Ouais.
Et sans contrainte de dire, celui d'avant, il était meilleur ou je ne sais trop quoi. Et donc ils ont cette capacité-là.
Très bien. Si on veut assister au spectacle, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut réserver des places?
Alors c'est un spectacle qui est complètement gratuit.
Ouais.
D'accord. Donc faut se rendre à la salle de l'atelier, voire même pendant la parade. Et puis, alors on espère évidemment que la salle sera pleine. Ça, je vous le dirai après. Par contre,
J'imagine qu'il y a les parents, les amis.
Oui, il y a les parents. Il y a quand même tous les amis de ces élèves. Ils ont quand même pas mal de relations dans les lycées. Donc je pense qu'il y aura quand même pas mal de monde.
Il devrait y avoir du monde.
Voilà. Il y a une chose importante qui n'a pas été dite aussi. C'est que en fait Amélie Nothomb est la marraine de cette expérience, de cette aventure. Elle était la marraine déjà sur le premier, donc elle n'avait pas pu se déplacer évidemment pour des raisons sanitaires. Donc je ne sais pas si elle aura la capacité de venir, mais elle est la marraine de ce festival en lice.
Très bien, ça le met sous de bons auspices.
Oui, tout à fait. Oui. Non, oui, c'est une belle référence quand même.
Parfait.
En littérature.
Merci beaucoup d'être venu nous présenter.
Mais je vous en prie, merci de m'avoir reçu et surtout d'avoir reçu Grain de Poésie.
Et puis on souhaite du beau temps pour ce défilé samedi prochain et puis un magnifique spectacle.
Merci beaucoup à vous.
À tous les élèves. À très bientôt.
Merci. Au revoir.
Ensemble sur Calade.
Allez, on reste du côté de la poésie encore quelques secondes avec les sages poètes de la rue. Voici un morceau intitulé « Timide mais sans complexe ».
Sans complexe, pardon, en live, peu importe qui est devant nous, autant que nous sommes des gens sages, autant on peut devenir un fou. Sans complexe, pardon, en live, peu importe qui est devant nous, autant que nous sommes des gens sages, autant on peut devenir fou. Évidemment que le ridicule ne tue pas. Je me rappelle de cette ex qui avait peur de danser. Pourtant en termes de sexe, elle était libre comme une pensée. Si à cause de moi t'as squatté ta bulle, mais à coup pas. Mais on sait, style de déranger ma future fiancée.
Qu'est-ce que tu en sais?
En danse toi aussi j'aurais pu t'influencer. Déjà petit j'y mettais John Travolta. J'arrivais sur la piste avec des pattes d'élèves. Rouler des belles à la plus belle, je kiffais grave ses lèvres. J'étais sur Arta le jour où je suis monté sur la scène torse.
Showtime, retour au sourire.
Élisez mon marque. Maintenant dès que je la sens, je bombe à fini, je dors. Regarde-moi de travers, je m'en bats les reins. Comme à l'époque du boléro, ton rappeur préféré portait des ballerines. D'ailleurs, je m'en fous, je peux même partir en impro si j'ai pas de rime. On m'appelle Soso, Florodéo. C'est vrai, je suis fou et oui, je chante comme bon me semble. Et si j'ai bu, ce sera jusqu'au bout de la nuit. Soyez pas timides, les filles, entrez dans ma chambre. Des noirs, des blanches, des noirs, on rit au shade. Sans complexe, pardon, en live. Peu importe qui est devant nous. Autant que nous sommes des gens sages, autant on peut devenir un fou. Sans complexe, partons en live. Peu importe qui est devant nous. Autant que nous sommes des gens sages, autant on peut devenir un fou.
Je me moque de leur délire et sarcasme. Je suis en état de grâce, tamis les dieux ont béni ma carcasse. Je sais, chacun ses goûts, mais je me dis obligé qu'ils me quittent. Et si c'est pas le cas, franchement, je m'en fiche. Car je sais tirer les leçons d'un désastre. Donc je n'ai pas peur de tomber ou de me tromper d'étage. Encore moins peur des haineux et des gens qui se moquent. Il s'agit de lutter pour la justice, traverser les solstices et les équinoxes. J'avoue que chaque fois que je fais le fou, je copie Zox.
Est-ce que tu veux d'âme, ce que tu voudras, moi.
Moi, je veux de l'eau, de l'argent et du sel. Et je peux me foutre qu'il pleuve ou de voir des étoiles dans le ciel. Quelque part à Tokyo, dans le quartier des plaisirs, survivant de l'abîme. Oui, je ne fais que ce que je désire. Là, je veux mettre tous mes habits dans un sac. Allez, écouter la Méditerranée, dormir avec le ressac.
Sans complexe, partons en live. Peu importe qui est devant nous. Autant que nous sommes des gens sages, autant on peut devenir un fou. Sans complexe, partons en live. Peu importe qui est devant nous. Autant que nous sommes des gens sages, autant on peut devenir
un fou. On m'a fait mélopée générale de Boulby. Je rappe et je chante au micro décomplexé. Tu ne peux pas m'atteindre, ne peux donc pas me vexer. J'ai fait le tour du monde et mon bide s'est rempli. Les complexes à la porte, Dieu est à l'œuvre, j'assume ça. J'en veux de casette sous mon trompe posé, j'assume ça. Sur la piste de danse, on trouve toujours en transe. De terre de Rome en douce et je cause de la turbulence. Je reste vrai,
parfois fou, parfois dans le silence absolu.
Trouve-moi criant fort dans la rue, seul comme un tordu. Tu m'as vu hier en boîte et m'as trouvé trop fly. Mais jamais foncer comme un gros schlag. Même si c'est vrai qu'il faut faire tout ce que bon nous semble.
Parce que vois-tu, la vie est trop courte, mon ami.
N'ayez pas peur, les filles, entrez donc dans ma chambre. Ce soir, c'est Mélopé, le maître de cérémonie.
Sans complexe, partons en live. Peu importe qui est devant nous. Autant que nous sommes des gens sages, autant on peut devenir un fou. Sans complexe, partons en live. Peu importe qui est devant nous. Autant que nous sommes des gens sages, autant on peut devenir fou. Nous sommes des gens sages.
Sans complexe, partons en live.
Autant que nous sommes des gens sages. notre temps.
Les sages poètes de la rue sur Calade avec timide mais sans complexe. On vous parlait du festival En Lys qui aura lieu ce samedi 13 mai, qui est organisé par l'association Grain de Poésie. Si vous voulez un petit peu plus d'infos, que vous voulez aller plus loin, il y a un site internet qui s'appelle tout simplement graindepoésie.fr où vous retrouvez toutes les informations pratiques. Il est l'heure d'écouter une rubrique du coach. Moi, je vous ai retrouvé une rediffusion que je trouvais sympa où il nous parlait de retraite. Et visiblement, ce jour-là, on avait écouté du Johnny Hallyday la veille.
Ensemble sur Calade.
Le coach.
Et avant que vous m'acquittiez, mes louloutes, vous serez tous capables de faire la même chose.
Et il a une voix aussi rauque que Johnny Hallyday, c'est le coach qu'on retrouve tout de suite. Bonjour.
Salut, gamin.
Bon, comment allez-vous?
Ça va bien. J'ai vu que t'avais essayé de nous ambiancer avec Johnny, tout ça.
Et ben, on rend hommage aujourd'hui à Johnny Hallyday dans Ensemble sur Calade.
Eh ben, mes cadets, dis donc. Dis-moi, ça, je sais pas pourquoi d'entendre du Johnny comme ça, ça me fait penser à ma future retraite, gamin.
C'est vrai.
Pourtant, je sais que c'est pas pour tout de suite, hein. J'ai même pas encore lancé d'essayer de faire une simulation pour avoir une idée de ma date de départ en retraite et du temps qu'il me reste encore à bosser, hein. Je me dis que ça sert à rien puisque d'ici là, il y aura, oulala, largement le temps de plusieurs réformes et j'ai plus de probabilité de me casser le col du fémur avant de pouvoir partir en retraite. Ouais. Alors, en ce moment, on entend souvent la phrase « nous vivons plus longtemps, alors c'est normal de travailler plus longtemps ». Notamment pour essayer de donner un petit argument en faveur d'une réforme des retraites. Mais quelle est con cette phrase.
Je sais pas.
Mais quelle est con. Chaque fois que je l'entends, je peux pas m'empêcher de me dire « Eh ben mon salaud, ça va, je te gêne pas, vas-y, prends-moi pour un jambon, fais-toi plaisir ». Parce que c'est pas parce que l'expérience de vie augmente que la vie en bonne santé augmente. Et quel intérêt de travailler jusqu'à 67 piges, voire plus, comme certains le souhaitent, si c'est pour s'épuiser au travail, voire végéter au chômage à partir de 50-60 ans, parce qu'on va pas se mentir, ce qu'on appelle les seniors, hein, eh ben les seniors, ils ont un peu de mal à garder leur travail ou à en retrouver. Et ce qui est même marrant, c'est qu'il y en a qui, de seniors qui reçoivent des invitations des mairies pour aller participer au repas des vieux alors qu'ils ne sont pas encore en retraite. Et cette histoire d'allonger le départ à la retraite, ça n'a vraiment pas de sens quand plus de 10% des jeunes sont au chômage et sans solution dans notre pays. Cet argument, il est terrible, gamin, car il est difficile à débusquer en tant qu'argument à la noix. Disons, j'ai du mal aujourd'hui, je ne sais pas si c'est d'avoir chanté du Johnny pendant la pause, là, mais... Cette histoire-là, cet argument, c'est un argument à la noix. Il se donne l'air d'être d'une logique froide. On vit plus longtemps, alors on doit travailler plus longtemps.
Ouais.
Mais la même mécanique pour d'autres sujets, on ne l'entend que rarement. Parce que c'est vrai, il pourrait dire... On vit plus longtemps, alors on doit rester en vacances plus longtemps.
C'est pas mal.
Ou on vit plus longtemps, il faut augmenter le temps des loisirs. C'est aussi logique, hein ? Puisque l'espérance de vie augmente, le reste devrait augmenter aussi. Eh bien, ces arguments piégés car déguisés en arguments logiques sont d'autant plus durs à débusquer qu'ils sont répétés en boucle dans les médias. On nous présente d'ailleurs souvent les retraités, dans les mêmes médias, comme des profiteurs, des personnes inactives, donc inutiles, qu'il faudrait faire bosser plus longtemps. Mais moi, je suis quand même étonné qu'on nous parle jamais de l'énorme contribution des retraités à la vie sociale de notre pays. Notre pays est l'un des plus riches au monde en termes d'associations en tout genre. Que ce soit pour le sport, les loisirs, la culture, la solidarité avec les plus démunis ou ceux qui en ont besoin. Ces associations sont actives en grande partie grâce à des retraités qui donnent de leur temps pour les faire vivre. Prenons les associations caritatives, par exemple. Je sais que toi, t'en as reçu un certain nombre dans ton émission. Eh ben, elles tournent toutes en très grande partie grâce à des bénévoles retraités, que ce soit le Secours Populaire, que ce soit l'Oasis, les Restos du Cœur ou Calam Calade, pour ne citer qu'elles, parce qu'on ne peut pas toutes les citer, tant elles sont nombreuses. Ouais. Tout ce lien social, toute cette utilité sociale, toutes ces missions qui sont venues répondre à des besoins auxquels l'État ne répond pas, eh bien, ça s'arrêterait demain si les retraités encore vaillants et énergiques ne s'engageaient pas dans les associations. L'engagement des retraités n'est pas que associatif. Combien de grands-pères, combien de grands-mères assurent dans leur entourage un rôle d'éducation et une solution de garde pour les petits-enfants le mercredi ou pendant les vacances ? Combien de familles n'ont pas les moyens de faire garder leurs enfants et doivent solliciter la générosité des grands-parents et surtout leur disponibilité ? Toute cette utilité sociale n'est pas comptabilisée, elle n'est pas valorisée dans notre pays. Elle est pourtant essentielle à l'équilibre social et économique de notre pays, à son fonctionnement. Combien de parents seraient obligés de s'arrêter, de prendre des jours enfants malades s'ils ne pouvaient pas appeler leur père ou leur mère pour garder des enfants malades ? Remarque, dans un sens, les retraités, je comprends qu'ils aient besoin de s'investir à l'extérieur et de trouver affaire hors de la maison. T'imagines pas, gamin, toi qui n'as pas encore 30 ans, l'angoisse que ça peut être de se retrouver d'un coup 24 heures sur 24 avec ton compagnon ou ta compagne après parfois 40 ans où t'avais ta vie professionnelle à côté. T'imagines pas l'angoisse de devoir réinventer ton quotidien avec un type dont tu connais tous les défauts et dont tu as déjà du mal à supporter les manies en temps normal. C'est l'enfer du couple, la retraite. D'autant plus quand une personne du couple est en retraite plusieurs années avant l'autre.
Ah oui.
Il ou elle a eu le temps de prendre ses marques, de s'organiser un petit quotidien fait de rituels aux petits oignons. Et il n'y a plus beaucoup de place pour la nouveauté et pour une personne qui va rester H24 à la maison. Alors moi, je crois que le plus beau cadeau de départ à la retraite que l'on peut faire à quelqu'un qui accomplit sa vie professionnelle, c'est de lui offrir d'une part le guide des associations de sa commune et d'autre part un bon pour 5 séances chez une conseillère conjugale et familiale.
Ah oui.
Ah oui, franchement, je pense que c'est une bonne idée. Parce que pouvoir préparer avec une tierce personne, une professionnelle, cette nouvelle étape de la vie du couple, eh bien, ça peut être salutaire pour que chacun trouve sa place et que le couple trouve un nouveau fonctionnement. On n'imagine pas combien c'est précieux de pouvoir exprimer ses besoins, ses attentes et d'entendre la réciproque de l'autre. Dans un cadre où on peut s'exprimer librement. Ça fait un bien fou, gamin. Et il ne faut pas attendre que ça aille mal pour aller voir quelqu'un, une tierce personne comme une conseillère conjugale. Et pour terminer cette chronique, je fais le vœu que la retraite soit vue pour ce qu'elle est dans sa diversité. Un temps de liberté que l'on peut investir dans ce qui nous tient à cœur. Aider ses proches ou bien aider les autres. Pratiquer de nouvelles choses. Découvrir, voyager et se reposer. Bref, un temps utile à soi et aux autres.
Très bien. Merci beaucoup, coach. À très bientôt.
À bientôt, gamin. Et bises à toutes les retraitées et à tous les retraités.
On embrasse les retraités. À bientôt. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.
Allez, un artiste qui pourrait être à la retraite vu son âge, mais il continue de chanter et c'est tant mieux. C'est Lee Fields qu'on écoute accompagné de The Expressions. Voici Waiting on the Sidelines.
I taste the fortune, I taste the fortune.
Il n'y en a plus beaucoup des lovers aussi cool que lui. C'était Lee Fields avec le titre Waiting on the Sidelines.
Encore un peu de lecture.
Ensemble sur Calade.
Et bon, mais c'est un bon bouquin. Je veux dire, c'est sérieux.
L'humeur littéraire du libraire.
Allez, il est l'heure de parler littérature avec notre libraire Bertrand Lamure. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Alors, en fait, cette semaine, j'avais envie de... Parce que nous avons cette semaine deux rencontres. L'une avec la médiathèque de Villefranche dans le cadre de Littérature Live et une autre à la librairie. J'avais envie de vous parler de ces deux écrivaines que l'on va rencontrer avec d'abord en priorité Natacha Appana. Où on fait une rencontre demain à la médiathèque justement autour de ces dames. Alors c'est dans un cadre d'un festival un peu plus large qui s'appelle Littérature Live. Ouais. Littérature Live, ça a lieu à la Villa Gillet, à Lyon, c'est chaque année. C'est un peu les littératures du monde qui se retrouvent pendant 4 ou 5 jours. Alors Natacha Appana est une écrivaine qui, bon, on considère même presque plus comme française aujourd'hui, mais qui vient de l'île Maurice, ouais, qui est mauricienne. Donc effectivement, une île qui pourrait faire rêver. Et en tout cas, elle a une écriture qui fait quelque part rêver, tant son univers est à la fois très doux, très ouaté, très tendre, mais en même temps très souvent assez dur. Alors son univers d'écriture, derrière cette douceur de l'écriture, ce côté poétique, alors tous ses livres, alors on a déjà fait presque une dizaine maintenant, elle part souvent de vie. Et vous, tout le monde sait qu'à un moment dans nos vies respectives, il y a souvent un moment où ça dérape. Alors parfois en bien, parfois en moins bien. Il y a tous dans nos vies des moments où on se dit, après coup là, il s'est quand même passé quelque chose.
Là, à ce moment-là, ça a dérapé.
Voilà. À ce moment-là, ça a dérapé, en bien ou en mal, encore une fois. Elle avait commencé avec un premier livre qui est peut-être son plus personnel, mais celui sur lequel elle a mis beaucoup d'elle, qui était Les Rochers de Poudre d'Or. Poudre d'Or étant un petit port sur l'île Maurice, pas loin de là où elle a grandi. Et elle revient en fait sur des Indiens. À la fin du 19e siècle, qui, on leur avait fait miroiter mille et mille choses, et qui en fait avait pris le bateau pour l'Inde, et c'était pas le commerce triangulaire façon l'Atlantique, mais en fait c'était se retrouver sur l'île Maurice à tout simplement travailler comme esclave dans la canne à sucre. Mmh. Elle fait déjà là un très beau livre autour de ces hommes, de ces destins qui basculent, l'idée, oui, allez, on nous propose de prendre la mer, de partir loin de nos villages, où on a plusieurs choses à régler et évidemment se retrouver pris dans l'étau de l'esclavage. Je ne vais pas tous les détailler parce qu'il y en a qui sont... c'est trop long. Ouais. Mais je voulais quand même revenir sur deux autres. L'un qui s'appelle Tropique de la violence. Alors Tropique de la violence est peut-être le livre qui a le plus l'a mis plus en lumière. Ça a valu un certain nombre de prix, dont le prix féminin des lycéens. Tropique de la violence, il se passe à Mayotte, où on a vécu quelques temps. Donc Mayotte, malheureusement, on connaît un petit peu l'univers d'aujourd'hui. Enfin, on connaît, on imagine plus qu'on connaît. Enfin, en tout cas, je parle pour
on
moi.
On entend parler.
Voilà, on entend parler. On est très très loin de l'île Maurice, paradisiaque, hôtel de luxe, etc. Enfin, Mathieu connaît peut-être, nous on connaît pas. Et Tropique de la violence, on est à travers un jeune garçon qui s'appelle Moïse, qui a été abandonné à sa naissance par sa mère. Il avait un œil, un œil vert, un œil marron, et donc ça c'est pas possible, c'est le diable. Et il a été recueilli par une infirmière française qui va l'élever jusqu'au moment où elle décède quand il est ado, et il se retrouve seul. Et là on va avoir cet univers des bidonvilles, cet univers de la violence, cet univers des mineurs qui sont complètement perdus. Ça a été écrit il y a presque une dizaine d'années, Et quand on regarde l'actualité aujourd'hui, on se dit, ah là, mon Dieu, rien n'a changé. Ouais. L'écriture est très forte, mais les personnages sont absolument... Donc il y a Moïse, mais il n'y a pas que Moïse. Hein. Il y a un éducateur, il y a un policier, il y a sa mère, il y a le chef de gang. Et la manière dont elle arrive à dresser ses portraits... Ça en fait des lectures qui résonnent au cœur. Et puis le dernier qu'elle a sorti il y a un peu plus d'un an maintenant.
Ouais.
Ça s'appelle « Rien ne t'appartient ». Rien ne t'appartient, et c'est l'histoire d'une jeune femme. Pareil, on revient sur ce que je disais en introduction, sur ces moments de vie qui changent. Et là, on a une jeune fille qui vit dans un pays d'Asie, qui est plutôt bien entourée, qui a plutôt une vie agréable. Ses parents sont des militants politiques dans son pays, mais elle a eu plutôt une enfance agréable, jusqu'au moment où les parents sont arrêtés, on ne sait pas ce qu'ils deviendront. Et elle, eh ben, du coup, elle va se retrouver dans un orphelinat. Un orphelinat, évidemment, qui est un orphelinat plutôt de travail dans ces pays-là, où en fait, on est orphelin, mais il va falloir quand même payer un peu la dette. Et jusqu'à un moment, il y a un tsunami. Et ce tsunami va tout ravager. Et c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer un médecin français avec qui elle va se marier. Elle va venir en France. Et en fait, au début du roman, cette femme qui a changé de nom, qui se rappelle plus tellement de sa vie d'avant, son mari vient de mourir, elle est totalement perdue. Elle est totalement, elle n'arrive plus à faire face à la vie. Et là, tout revient, un peu comme un nouveau tsunami. Et pareil, là, on a encore un très très beau portrait de femme. Voilà, je pourrais continuer encore longtemps sur Natacha Apana, mais c'est vraiment une écrivaine assez extraordinaire à rencontrer. Et le lendemain, donc on reçoit Samira Sedira. Et Samira Sedira est une écrivaine qui est aussi comédienne. Je crois qu'elle a dû jouer une ou deux fois au Théâtre de Villefranche. Et elle est aussi écrivaine. Elle a déjà fait 5 ou 6 romans. Et elle revient pour son dernier qui est « Un jour, j'ai menti ». Alors on l'avait découvert avec L'odeur des planches, où elle expliquait comment comédienne, de temps en temps, on n'avait pas de cachet et qu'il fallait faire autre chose. Et elle avait, du coup, elle a été femme de ménage pendant quelques temps. Elle avait fait aussi Match d'Arnoud sur l'identité, elle qui est d'origine algérienne, et comment sa famille, elle, il a fallu s'adapter à cette nouvelle identité, qui est une identité entre guillemets française. Et un jour j'ai menti, on revient sur une femme. Et cette femme, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire parce qu'elle vient d'un milieu très modeste et toute sa vie est tournée autour de l'aide auprès des autres. Elle a développé une énergie énorme pour arriver à essayer de faire des dossiers, essayer de placer les gens, des migrants, des gens qui sont aussi en situation socialement dramatique. Évidemment, elle est très appréciée dans les différents milieux de l'humanitaire, jusqu'au point d'arriver comme ministre. Et un jour, on s'aperçoit que tout ça est faux. Et voilà. Et comment on fait après avec ça? Voilà. Comment on vit après avec ça? Très très surprenant sur la quête de l'identité, sur aussi le drame de s'enfermer dans un mensonge. C'est assez captivant, avec une écriture qui est une écriture extrêmement fluide. Donc elle nous happe dès les premières pages et on ne s'arrête pas. Donc deux écrivaines très très sympathique, très doué, très intéressant. Donc on est très très heureux de les rencontrer, et j'espère que vous aussi, entre demain et après-demain, entre la médiathèque et la librairie, et également le très très beau festival littérature live qui a lieu cette semaine à la Villa Gilet. Bon, j'ai envie de dire, c'est quand même plutôt une belle semaine.
Bah oui, et est-ce que vous êtes président d'un jury pour un événement qui aurait lieu ce samedi?
Ah oui, alors là, oui, ça c'est la fin de semaine, ça graine poésie, tout à fait, j'aurais pu en parler. C'est une très très belle initiative, dont j'étais déjà jury l'an dernier, mais because Covid, ça avait été un peu, ça n'avait pas été comme prévu. Ouais. Mais là, je pense que ça va être une journée assez, assez magique autour des mots, de la poésie, et surtout quand la poésie et les mots se sont emparés par les lycéens. L'an dernier, on n'avait pu voir qu'en vidéo, malheureusement, Mais là, cette année, c'est à l'atelier, samedi après-midi, il y a une parade avant, et je pense qu'ils vont faire des choses, des réalisations assez extraordinaires. Ah ouais.
C'était le sujet de notre émission aujourd'hui, et effectivement, on a parlé tout à l'heure avec notre invité, et ça a l'air bien chouette. Merci beaucoup.
Je pense que ça va être assez magique. Donc là, voilà, la semaine.
C'est une sacrée semaine.
Magnifique.
Et il y a seulement 4 jours. Donc je rappelle le rendez-vous mercredi, à 18h.
Demain à 18h à la médiathèque, du coup, autour de Natacha Pana, et jeudi à 19h à la librairie des Marais, autour de Samira Sidira.
C'est parfait.
Pas mal. Et puis Grande Poésie, samedi, de mémoire, c'est à 15h.
Exactement, salle de l'atelier à Villefranche.
Tout à fait.
Voilà, les rendez-vous sont donnés, merci beaucoup.
Belle journée à tous.
Très bonne journée, à bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, il nous reste deux petites minutes. On va pouvoir écouter un peu de musique. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir écouter de beau? Je vous propose Kenneth, un groupe que j'ai découvert il y a peu de temps. Le groupe s'appelle Little Dragon. Le morceau avec lequel je les ai découverts, l'album s'appelle Kenneth. Tout de suite, un morceau intitulé Slug of Love. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Rendez-vous demain à 12h12 pour un nouveau numéro d'Ensemble sur Calade.
Sluggish and lazy. We have a feast at the table.